Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Pascal Marcaggi.
Hervé Kempf, vous êtes journaliste de l'environnement ou de l'écologie, vous allez me corriger, depuis longtemps, depuis un petit peu avant les autres. Votre dernier livre, Fin de l'Occident, Naissance du monde, pourquoi ce titre tout d'abord, Fin de l'Occident? Est-ce que c'est la fin d'une civilisation ou est-ce que c'est la fin d'un monde un petit peu perverti?
Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la fin d'un moment historique en fait. Je pense que... Il y a eu un moment occidental dans l'histoire du monde qui a duré 200 à 300 ans et qui est en train de se fondre dans le mouvement historique qui conduit l'humanité vers un autre état, vers une autre situation. Et pour moi, ça n'est pas catastrophique, c'est pas du tout un déclin, c'est pas une décadence, c'est simplement une mutation, mais qui nous change nos habitudes et nos façons de penser, puisque depuis un ou deux siècles, nous étions habitués à considérer que la suprématie de l'Occident, sa supériorité matérielle était quelque chose de presque naturel, alors que ça n'a rien de naturel, c'est un moment court dans toute l'histoire de l'humanité et qui est en train de se clore et on va passer vers un nouveau monde, donc ça veut dire qu'il va falloir changer pas mal de choses, il va falloir changer aussi beaucoup de façons de penser, des façons culturelles d'envisager la vie, la société, l'histoire, mais je veux dire, c'est pas du tout mal, l'Europe va être bien, au contraire, par exemple, j'imagine l'Europe de manière très tournée vers l'avenir, avec beaucoup de chance pour l'avenir, et mais simplement le monde change.
Cette grande divergence que vous appelez, qu'est-ce qu'il a occasionné en quelque sorte?
Le concept de la grande divergence, il a été posé par un historien des États-Unis, Kenneth Pomerantz, qui a cherché à répondre avec d'autres historiens, mais il a apporté une réponse originale à la question: qu'est-ce qui fait que l'Europe, qui était l'Europe de l'Ouest, qui était jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, une région tout à fait comparable aux autres, qui avait ses qualités, ses caractères brillants, mais qui, si on la comparait aux grandes civilisations qui pouvaient exister à cette époque dans le monde, l'Inde, la Chine, des cultures africaines, n'était pas exceptionnelle. Et à partir du XVIIe, elle s'est différenciée énormément des autres et s'est produit la grande divergence, c'est-à-dire le fait que les pays occidentaux d'Europe de l'Ouest et puis après l'Amérique du Nord et quelques autres ont commencé à vivre de manière tout à fait différente des autres, à avoir une connaissance technique, une suprématie sur la technique très forte et qui leur a permis d'avoir des niveaux de consommation matérielle beaucoup plus élevés que les autres humains. Et donc la réponse que donne Kenneth Pomerantz à cette grande divergence, c'est le fait que, en fait, les Européens, et en premier lieu l'Angleterre, ont eu la chance d'avoir des ressources écologiques que n'ont pas eues à ce moment-là d'autres civilisations. Par exemple la Chine, d'ailleurs, à laquelle ils comparent l'Angleterre du Sud. Et il y a deux choses qui ont joué, qui ont été très précieuses. D'une part, dans une époque où l'énergie était très rare et était une vraie contrainte à tout le développement des sociétés, parce que l'énergie, c'était essentiellement le bois, et le bois commençait à entrer en concurrence avec la production alimentaire. Donc si on voulait avoir plus d'énergie, il fallait faire pousser plus de bois, mais du coup, ça obligeait à réduire la production alimentaire. Donc il y avait vraiment un verrou. Et l'Angleterre a pu desserrer ce verrou pour deux raisons. D'une part, elle a découvert à ce moment-là les mines de charbon et la façon d'utiliser le charbon, et le charbon était à proximité de ses lieux de consommation. Les grandes manufactures autour de Birmingham, de Leeds, etc., à une époque où le transport était très coûteux, parce qu'il n'y avait pas de camion, donc tout passait par des charrettes à âne ou à cheval ou à bovin, je ne sais pas. Et donc il y a eu cette chance que, par exemple, alors qu'il y avait aussi du charbon en Chine, mais le charbon était dans le nord de la Chine, alors que les grands centres de consommation étaient dans le sud, trop distants. Donc, disponibilité du charbon qui a pu alimenter les premières manufactures, les premières machines, et contribuer à permettre ce développement technique. Et puis, la deuxième grande ressource écologique qui a été disponible pour l'Angleterre, et qui n'a pas été disponible pour les autres civilisations, c'était l'Amérique du Nord, avec notamment la possibilité du coton, de la culture du coton, à une époque où le lin... Avant le coton, les textiles, c'était le lin ou la laine, et qui était elle aussi, comme le bois, en concurrence avec la production alimentaire. Donc c'était un verrou. À partir du moment où on a pu avoir une fourniture presque sans limite de textiles pour alimenter les manufactures, avec le charbon, il y a pu y avoir le développement industriel, le développement technique, etc. Et ça, ça a été les deux grands stimulants, selon Kenneth Pomerantz, qui ont permis ensuite à l'Angleterre et puis les autres pays d'Europe occidentale de rentrer dans un cycle vertueux d'énergie abondante qui nourrit la technique, qui nourrit d'autres moyens d'exploiter l'énergie et qui, après, a permis à l'Occident de dominer le monde incontestablement. Tout n'a pas été négatif, mais la question n'est pas là dans cette domination. Mais voilà. Et donc l'explication de Pomerantz à la grande divergence, c'est de dire, avant tout, il y a eu une chance écologique en termes de ressources, un espace écologique disponible qui a été le grand atout des pays occidentaux.
Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'entre la matière première et entre guillemets la matière grise, le progrès des hommes, il y a toujours un lien dont on ne peut pas se faire à l'économie? Est-ce qu'il y aura toujours ce lien entre la Terre finalement et puis notre intelligence? Or, peut-être que ça se raréfie et qu'il y aura un lien aussi.
Oui, je pense. En fait, l'explication de Kenneth Pomeranz, c'est une explication de type écologiste, au sens de dire que les facteurs écologiques sont tout à fait importants dans l'évolution des sociétés. Effectivement, une société joue aussi des facteurs culturels. L'explication n'est pas seulement matérialiste. Il y a une interaction avec des facteurs culturels, avec un état spirituel ou philosophique de ces sociétés à ce moment-là, etc. Donc l'interaction joue. Mais le fait de dire qu'il y a interaction ne veut pas dire que si manque la condition écologique, la condition intellectuelle, si on peut parler ainsi, va tout faire. Et inversement, le fait qu'il y ait des potentialité écologique particulière ou des difficultés écologiques particulières ne va pas faire que l'intellect va être totalement bridé. Donc c'est vraiment dans cette interaction. Mais l'essentiel, c'est de voir que dans cette interaction, il ne faut jamais oublier la question écologique. Et précisément dans l'analyse du phénomène occidental et de la suprématie occidentale depuis 2 à 3 siècles, les Occidentaux ont fini par croire que c'était essentiellement leur qualité intellectuelle, civilisationnelle qui aurait été essentielle. Elles ont été importantes, sans aucun doute, mais, et ça Kenneth Pomeranz nous le rappelle de façon extrêmement convaincante, les facteurs écologiques, la chance écologique dont a disposé l'Europe occidentale a été un atout absolument déterminant.
Alors comme nous avons la mémoire courte, et puis après tout nous n'étions pas là il y a 2 ou 3 siècles, hein, vous parlez de cette convergence qui peut éventuellement nous-mêmes nous effrayer. On le voit bien, on avait l'habitude, tout de même, non pas de forcément en termes de suprématie, mais d'appartenir, de vivre dans un îlot de prospérité en tous les cas. Et puis cette donne change, c'est un véritable bouleversement, au moins à l'aune de l'Europe, on le voit bien, on le vit. En tant que tel, c'est un énorme bouleversement. Est-ce qu'on est capable de vivre de tels bouleversements?
On va voir. De toute façon, ce sont des bouleversements qui sont en train de se produire. Mais reprécisons les choses. Après avoir expliqué la théorie de la divergence de Kenneth Pomeranz, moi j'introduis l'idée que nous sommes en train de vivre la grande convergence, c'est-à-dire précisément un moment historique qui se produit sur quelques décennies, qui se produit sur 1 à 2 générations, dans lequel nous sommes pleinement engagés. Les phénomènes de la convergence dans laquelle précisément, après cette grande divergence des Occidentaux par rapport au reste de leurs frères humains, eh bien, on fait la convergence, c'est-à-dire que tout le monde va retrouver un état qui a été celui de l'humanité pendant quasiment toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un état dans lequel le niveau de consommation matérielle et le niveau de consommation moyen étaient quasiment le même sur toute la planète. Eh bien, on est en train de revenir à cette situation. C'est-à-dire que maintenant, les Brésiliens, les Américains, les Chinois, les Guatémaltèques, les Nigérians regardent comment vivent les New-Yorkais, les Parisiens et les Monégasques, et ils se disent, on est aussi intelligent qu'eux, on peut vivre comme eux, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence très grande. Donc voilà, il y a ce mouvement historique d'un sentiment de l'égalité et puis aussi la diffusion qui s'est faite maintenant de toutes les techniques permettant de maîtriser l'énergie et de la mettre en œuvre et qui conduisent à cette grande convergence, c'est-à-dire au retour à cette situation d'homogénéité des conditions matérielles et de consommation énergétique. Mais, et c'est pour ça que c'est un bouleversement. Alors c'est d'abord, vous l'avez dit, un bouleversement effectivement mental, parce qu'il nous faut nous habituer, nous occidentaux, à ne plus être supérieurs aux autres, à ne pas être spécialement plus riches, à ne pas avoir une position prééminente. Ce qui est délicat parce que depuis 2 ou 3 générations, on est culturellement habitué à cette suprématie de toutes sortes. Et puis il y a une autre chose qui se produit, c'est que cette convergence, en raison de la gravité de la situation écologique dans laquelle se trouve le monde à l'heure actuelle, ne va pas pouvoir se faire au niveau des habitants d'Amérique du Nord, d'Europe ou du Japon. Elle va se faire à un niveau inférieur pour l'ensemble de l'humanité, inférieur au niveau de vie matériel actuel de celui qui est en Europe. Et donc, ça veut dire pour nous, habitants d'Amérique du Nord, mais aussi d'Europe, mais aussi du Japon, une diminution de la consommation matérielle et une diminution de la consommation énergétique. Donc ça, c'est un autre bouleversement aussi par rapport à une situation où on s'est habitué en moyenne à un confort toujours plus important, à une disponibilité d'énergie toujours plus grande, à la possession d'un très grand nombre de gadgets. Et ça, effectivement, ça va être une autre difficulté, ça va être un changement d'habitude, aussi bien individuel que d'organisation sociale et de relations sociales, qui va être tout à fait important. Mais le fait qu'on vive un bouleversement, environnement n'est pas forcément l'indice que ça va mal se passer. Quand vous êtes un adolescent ou une adolescente, bah, on subit des bouleversements très importants dans son corps et dans son esprit. Et puis, pour la très grande majorité des gens, ça se passe bien après une période de difficulté. Je crois qu'on pourrait prendre cette comparaison. Quand on change d'époque, quand on change de monde, quand on change d'habitude, il y a un bouleversement, mais qui nous conduit à un autre état d'équilibre. Après, on verra comment il se présentera, mais ce bouleversement n'est pas négatif.
Alors, deux questions. Il y a d'abord cette convergence. Est-ce qu'on peut supporter, ça peut être d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, ça peut être une grosse entreprise par rapport aux petites. Est-ce qu'on peut supporter de ne plus dominer en tant que tel? La domination, est-ce que ça peut ne plus être une valeur, hein? Et puis, la fin de l'Occident. L'Occident, on se le représente comme une civilisation. Est-ce qu'on n'est pas plutôt, au bout du compte, en train de vivre son avatar et mieux vaut retrouver d'autres valeurs?
Oui, je crois que c'est une façon de poser la question tout à fait pertinente. Et d'autant plus si on la pose dans le contexte de l'évolution du capitalisme des dernières décennies, qui a été non seulement une évolution financière, économique, d'augmentation des inégalités, mais aussi un changement dans la culture collective. Et grosso modo, dans la dernière, trois dernières décennies, la culture capitaliste a imprégné notre culture comme jamais en exacerbant les valeurs d'individualisme, de compétition, essentiellement. Or, effectivement, le nouveau monde dans lequel on doit aller, précisément à cause de la gravité de cette crise écologique qui va toucher tout le monde d'une manière ou d'une autre, implique qu'on ne peut répondre que par la coopération. Et la coopération, bah, ça veut dire l'inverse de cet individualisme, ça veut dire l'inverse de la compétition. Il va nous falloir retrouver des valeurs de solidarité, des valeurs de coopération. Donc ça va être difficile, mais ça va être difficile surtout pour les dominants, pour ceux qui sont dans une situation de pouvoir, un pouvoir fondé sur cette compétition, sur cette rivalité, sur cette agressivité des individus les uns à l'égard des autres. Bah, il faut changer de système de valeurs. Et je dirais que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les valeurs de coopération sont largement partagées. En fait, on peut dire qu'elles font tout à fait partie de la nature humaine, pour autant que la nature humaine existe. C'est vrai qu'en chacun d'entre nous, et sans doute en chaque humain, me semble-t-il, il y a tout un tas de facettes. Il y a des facettes de compétition, il y a des facettes d'agressivité, il y a des facettes d'énergie violente, mais il y a aussi des facettes de coopération, il y a des facettes d'amour, il y a des facettes de contemplation, il y a des facettes d'intelligence et d'affection avec les autres. Voilà. Et c'est ça qui a fait les sociétés, qui fait les histoires des humains. Et il y a certaines périodes où on insiste plus sur tel ou tel caractère de l'humain. Je pense que dans la dernière période, on a beaucoup insisté sur les valeurs individualistes, sur les valeurs de compétition. Et ben maintenant, on va être dans un état de l'humanité, de la culture commune, qui va mettre beaucoup plus en valeur les qualités de coopération, les qualités de solidarité, les qualités d'attention aux autres et d'attention au reste de l'univers, de la nature, de l'environnement.
C'est ce qu'avait dit un petit peu François Hollande quand il avait la langue qui avait fourché avant Rio+20. Il avait parlé de la société civile désorganisée. C'était peut-être un trompé de mots où il avait pas trouvé. Il avait été pris de court face à ce foisonnement. Peut-être, mais c'est une interprétation en tous les cas. Les blocages existent réellement. On le sait. Quels sont les principaux blocages à cette évolution?
On va continuer dans la ligne de ce qu'on vient de dire. Un blocage très important, c'est la culture dans laquelle on est. De la même manière qu'on a tendance à ne pas voir la longue durée et à croire que ce que nous connaissons depuis quelques générations, depuis 100 ou 200 ans, est quelque chose de naturel, sans voir que c'est très exceptionnel par rapport à l'histoire humaine, de la même manière, on s'est habitué à cette prodigalité dans laquelle vivent non pas tous les habitants des pays occidentaux, on est bien d'accord, mais une très large partie des habitants des pays occidentaux, les classes moyennes et les classes supérieures. Et on a tendance à considérer ça comme normal. On s'est aussi habitué, parce qu'on y est imprégné très fortement depuis quelques décennies, à cet individualisme systématique, à cette compétition des individus les uns avec les autres, à cette struggle for life, à cette lutte pour la vie. Eh bien, je crois que ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté personnellement, parce qu'à la fois, on est chacun dépendant, imprégné de la culture, mais heureusement, nous avons une liberté propre et une capacité propre à nous orienter par rapport à ça. Mais de la même manière qu'on parlait tout à l'heure d'interaction, ben, il y a toujours une interaction entre la personnalité de chacun et la société et la culture dans laquelle il vit. Ça, c'est un problème très important. Comment est-ce que nous allons faire évoluer notre culture vers ces valeurs de solidarité, de coopération et aussi de sobriété, de moindre consommation, de ne plus trouver sa satisfaction dans un très grand nombre d'objets et de biens à notre disposition? Ça, c'est une question importante. Un autre verrou qui est très important aussi et qui, à mon sens, largement aussi important, France, c'est la position dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où il y a une classe dominante extrêmement restreinte, qu'on peut qualifier d'oligarchie, c'est-à-dire qui n'est plus aussi dans une logique démocratique, et qui cumule des pouvoirs financiers d'abord, parce qu'ils ont des très grandes fortunes, des pouvoirs politiques, parce qu'il y a une hybridation très importante entre une large partie des décideurs politiques et les décideurs économiques, et puis aussi médiatiques, et par lesquels cette oligarchie, cette classe dirigeante, contrôle très efficacement la conscience collective. Donc ça, je crois que c'est un très grand verrou, parce que nous sommes dans une situation historique où cette classe dirigeante n'est pas animée par le souci de l'intérêt général, n'est pas animée par le souci d'éviter la catastrophe écologique vers laquelle nous pourrions nous diriger. Elle est animée par le souci essentiellement de conserver son pouvoir, de conserver ses richesses, de conserver la situation très inégalitaire et très dangereuse dans laquelle nous sommes en ce moment. Et donc on a un verrou. On aurait pu penser, je faisais partie de cela avec une certaine candeur, après la crise financière de 2007-2008, qu'on arriverait à changer les usages et les coutumes de cette oligarchie, de ces oligarchies, après la catastrophe financière vers laquelle ils nous avaient conduits, en raison de leur spéculation, de leur avidité, de leur cupidité. On est obligé de constater quelques années après que rien n'a changé. Ils continuent comme avant à spéculer, à accumuler des fortunes, à pratiquer l'évasion fiscale, à entretenir les paradis fiscaux, à prendre une partie importante de la richesse collective, sans prêter attention à la misère de plus en plus grande qui sévit dans nos pays, et sans prêter attention non plus à la crise écologique qui est d'une importance absolument capitale. Donc je crois que l'oligarchie, les classes dirigeantes sont devenues un obstacle à la mutation, au bouleversement pacifique vers lequel nous voulons aller.
Hervé Kempf, être journaliste de l'environnement, est-ce que c'est aujourd'hui un acte de résistance à...
Non, je crois, il faut être... Non, en revanche, je dirais que être journaliste devrait être un acte, sinon de résistance, en tout cas de liberté. Et je crois que les médias, on l'a vu rapidement, sont très largement contrôlés par les puissances financières. Et beaucoup de journalistes, beaucoup de mes collègues et moi aussi, nous trouvons pris dans une situation où soit on plie les chines devant la pression de plus en plus forte de ses maîtres, soit on accepte ou on intègre les idées qu'elles veulent nous voir répandre comme si c'était les nôtres, ou soit effectivement on trouve les marges de liberté pour faire passer d'autres idées et pour montrer que ces classes agissent mal. Je crois que c'est une situation très difficile pour beaucoup de gens et qui se retrouve pas seulement dans le journalisme, mais qui peut se retrouver dans les syndicats, dans l'administration, dans les entreprises, dans la paysannerie, voilà, donc partout finalement tout le monde se trouve confronté à cette situation de domination et d'aliénation importante. Mais je pense que les journalistes devraient avoir en permanence à cœur de se rappeler qu'ils sont finalement les défenseurs de la liberté, qu'ils devraient être attentifs à ce qui se passe en bas et non pas aux ordres venus d'en haut, et donc être dans une attitude plus combative. Mais pour combattre, il faut être uni, il faut être capable de se mettre à plusieurs. Et malheureusement, les valeurs qu'on décrivait tout à l'heure de compétition et d'individualisme sont très fortes dans le journalisme. Presque par nature aussi, parce que c'est des métiers qui affirment les personnalités. Mais du coup, on a tendance à se refermer chacun sur soi-même au lieu d'être dans des logiques coopératives de solidarité qui peuvent passer par le syndicat, qui peuvent passer par eux aussi être en alliance ou en empathie avec la société civile, avec ceux qui, sur le terrain, se bagarrent. Ça n'est pas de la résistance, j'aime pas trop ce mot, mais oui, ce sont des bagarres et ça va être de plus en plus des batailles. D'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus, on cherche des lieux d'expression sur Internet ou d'autres manières pour ne plus être soumis à cette puissance financière, à cette puissance de l'oligarchie qui veut contrôler l'opinion publique et qui veut contrôler les journalistes.
On rappelle le titre de votre livre, hein.
Fin de l'Occident, naissance du monde.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.